Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. C'est dans le Perche que j'ai rencontré Miklós de Kish de Nemeszker et nous avons eu une conversation à propos des Alains. Nous sommes partis d'ailleurs d'une thèse d'André Pietre qu'évoquera pour nous Miklós de Kish. Alors, Miklós de Kish, dans une première émission, a évoqué pour nous les go. Et je voudrais qu'aujourd'hui, eh bien, nous revenions sur ces go pour terminer par les Alains. Miklós de Kish, bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être ce serait intéressant que vous évoquiez pour nous cette thèse d'André Pietre sur les trois âges d'une civilisation.
Oui, alors, la civilisation, d'après André Pietre, démarrerait avec certaines caractéristiques et se terminerait avec les mêmes caractéristiques, quelle que soit la civilisation. C'est-à-dire qu'il annonçait la fin de notre civilisation. Alors là, il faut être prudent parce que malgré tout, est-ce que notre culture est moins bonne que la culture latine? Est-ce que le français est du mauvais latin? Enfin, bref, c'est chacun pense ce qu'il veut pour cela. Bon, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, il y a certains éléments, parmi tous ces éléments qui terminent une civilisation, ce sont les invasions. Et pourquoi j'ai été intéressé, comme je l'ai dit la dernière fois, aux invasions barbares? C'est à cause des Alains.
C'est ça.
Parce que j'habite un village qui s'appelle Courtalain.
Oui, ça, voilà. Je crois que c'est très important que vous le redisiez, parce que c'est quand même, d'ailleurs, ça a été le début de notre conversation que nous avions eue dans le Perche, les Alains, Courtalain, et aussi d'autres noms de villages, comme il y en a quand même pas mal, Alainville,
Alaine, Ville-Alain aussi, voilà. Même des villes dont le nom évoluait, par exemple Langeais, s'appelait Alanga, ce qui veut dire un camp d'Alain.
Ah oui, ça je ne savais pas, c'est intéressant.
Donc il y a eu des Alains chez nous, ouais, il n'y a pas eu que chez nous d'ailleurs,
non,
parce que
non.
Ils sont étalés, comme je vais vous raconter, un petit peu partout.
Ah. Alors peut-être revenons au go. Parce que c'était quand même...
Alors,
nous en étions là la dernière fois.
Oui, les go ont été donc poussés.
Alors les go, G-O-T-H-S.
Hein. Exact. Alors, les Visigoths en particulier, les Visigoths menés par leur roi Alaric, s'est vengé de Honorius, de l'empereur Honorius, qui ne voulait absolument pas traiter et leur envoyer l'argent qu'il leur devait, ou qu'il leur avait promis au moins. Et du coup, il a décidé de faire le sac de Rome. Ce qui est extraordinaire, c'est que le sac de Rome était prévu. Rome était une ville d'1 million d'habitants, impossible à défendre parce que trop grande, donc une protection beaucoup trop importante et pas assez suffisante pour que la population soit protégée. D'ailleurs, l'empereur lui-même, Honorius, s'était installé à Ravenne parce que c'était plus facile à protéger. Et le sac de Rome s'est fait par Alaric d'une façon très triste. Après négociation, il a tout fait pour ne pas le faire en disant, voilà, vous me donnez 4000 francs or de l'époque. C'était pas de l'argent, c'était pas des francs, c'était 4000 livres d'or. Et je fais pas le sac, il y a un peu de nourriture, et Honorius a refusé. Et alors Rome a été saccagée. Il faut savoir que quand ça se passait à l'époque, c'était terrible. On volait, on pillait, on tuait les soldats n'était pas maîtrisable, absolument.
Oui, et puis ils avaient faim aussi.
Ils avaient faim, c'était pas maîtrisable, et surtout que Rome était très très riche. Alors, quand d'ailleurs les Visigoths ont terminé, Alaric, Alaric est mort quelques temps après, il a été enterré sous la rivière Busanto en Italie, sous une rivière, parce que l'eau était quelque chose de sacré pour les barbares. C'était la séparation du bien et du mal qui se faisait. D'ailleurs, les traités, le traité que Clovis va faire beaucoup plus tard, après la bataille de Vouillé, ou avant la bataille de Vouillé, mais c'est à cette époque-là, avec Alaric, le traité va être fait sur la Loire, hein, qui séparait d'ailleurs les Romains et les Visigoths des Francs qui avaient le nord. Les traités se faisaient souvent sur l'eau. Le traité de Théodose s'est fait aussi sur l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette époque? Je racontais que c'était une poussée des Huns. Les Huns arrivaient. Heureusement, ils s'étaient arrêtés à un moment donné parce qu'ils avaient trop de fortune. Ils ne pouvaient plus avancer. Ils étaient trop lourds. Et ça a permis aux Goths de se sauver, mais pas seulement aux Goths, aux Vandales, aux Alains. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres peuples en Germanie et qui avaient qu'une seule envie, c'est de se sauver devant les Huns qui étaient des bêtes féroces. Des bêtes féroces et Amien Marcellin, qui est un historien que j'aime beaucoup, qui est un historien de l'époque, qui lui aussi était militaire de carrière d'ailleurs, dit « il dépasse en férocité et en barbarie tout ce qu'on peut imaginer ».
Oui, ça devait être affreux.
Alors, oui, c'était vraiment affreux. Par exemple, quand ils sont arrivés, les Huns plus tard, hein, quand ils sont arrivés à Metz, ils ont attaqué Metz et ils sont repartis parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans la ville. Ils ont ensuite, il y a un mur qui s'est écroulé, ils ont su ça. Ils sont revenus, ils ont massacré tout le monde, ils sont partis et ils sont revenus, c'était leur tactique parce qu'ils savaient que ceux qui s'étaient cachés, hein, revenaient au bout d'un certain temps et qu'ils voulaient finir le travail.
C'était la stratégie.
C'était affreux. Alors, on va parler des Alains parce que c'est ça qui nous intéresse.
Exactement. Alors, d'où viennent-ils, ces
Alors,
Alains?
Les Alains viennent là, ils ne viennent pas de Germanie, ils viennent de beaucoup plus loin. Ils viennent de Scythie ou de Sarmatie, puisque c'est le Caucase. On est maintenant dans le Caucase. Ils étaient au nord de l'Iran et ils s'étalaient depuis le Caucase jusqu'à à peu près l'Ukraine. C'était un peuple qui n'avait pas une grande unité, parce que c'était surtout une confédération de peuples, tout comme les Sarmates avant eux, comme les Scythes avant eux, sur le même terrain, avaient fait une sorte de confédération. Les tribus choisissaient le meilleur et suivaient le meilleur. Et c'est ainsi qu'on va voir des Alains partout. On va les voir même dans l'armée des Huns, on va les voir dans l'armée de Constantinople, et puis on va les voir tout d'un coup traverser le Rhin le 31 décembre 405.
Et là, ils sont nombreux ?
Là, ils sont très nombreux, parce qu'ils ne sont pas tout seuls, ils sont avec les Vandales, et les Vandales ont laissé, eux, comme nom, un mauvais souvenir.
Oui. En fait, pourquoi viennent-ils?
Alors, ils viennent parce qu'ils se sauvent d'abord, hein, devant les Huns, et ensuite, ils ont envie d'aller en Espagne, parce qu'on leur a dit qu'en Espagne, c'était la fortune. Et ils souhaitent une seule chose, c'est que les Romains les installent en Espagne. Alors, ils arrivent ils traversent, parce que le Rhin est gelé ce soir-là, et là, c'est quatre peuples qui traversent. Quatre peuples qui traversent, c'est énorme. Parce que quand on pense qu'après ça, quand ils sont arrivés en Italie, ils se sont battus en Gaule, ils se sont battus en Espagne, quand ils traversent pour aller en Afrique du Nord, quelques années plus tard, ils sont encore 80 000.
Ah, oui.
Et ils se sont séparés en deux, parce que les Suèves et les Quades se sont mis contre eux avec les Visigoths et les Romains. Et ils traversent donc le Rhin, ils sont bloqués dans les Pyrénées, donc ils restent jusqu'en 409 dans les Pyrénées, et là, ils ont fait pendant 4 ans un massacre, un pillage affreux, qui a tellement marqué, comme je le disais la dernière fois, l'esprit des habitants, qu'ils ont été contents de voir les Visigoths arriver, en disant qu'ils vont nous protéger. Et puis, ils passent donc en 409 en Espagne, mais là, les Romains ne veulent pas leur donner d'installation. Et ça recommence à se battre jusqu'en 16 à peu près, 416. Et en 416, ils traversent, ils vont en Afrique du Nord, et là, l'Afrique du Nord, c'était le grenier des Romains, le grenier à blé des Romains, entre autres. Et là, ils s'installent, après un traité avec Aspar, un général romain, qui était, lui, d'origine aussi, comme à ce moment-là, quasiment toute l'armée romaine, ou presque, sauf quelques généraux. Il s'installe en Tunisie. Après s'être battu, il faut savoir que quand ils se sont installés, c'est la même année où est mort Saint-Augustin. C'est-à-dire Saint-Augustin n'a pas dû les voir venir. Ils sont arrivés...
Oui, parce qu'il n'y a jamais été question.
Et ils ne s'attendaient pas à ça. Ça a été fait. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait un général romain, un brillant général romain, puisqu'il avait battu Aécius, ils se battaient entre eux, les généraux romains. Aécius étant un général dont on parlera tout à l'heure, puisque c'est lui qui a mené la bataille des champs cataloniques. C'était Boniface, le général Boniface, qui était l'ennemi juré d'Aécius. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand il est mort, Aécius a épousé son épouse.
Ah!
C'est assez curieux. Son épouse qui s'appelait Pélagie.
C'est joli.
Oui, et pour la petite histoire, il y a une lettre de Boniface écrivant à Saint-Augustin « Comment je peux faire Pélagie étant arienne, arianiste. Elle a baptisé mon fils Arien. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la différence avec un baptême chrétien romain, quoi?
Ah oui.
Oui. Et Saint-Augustin a dit la seule différence, c'est le Saint-Crème.
Ah oui.
Hein, c'était ce qui
différencie. Donc il se posait des questions métaphysiques.
Ah oui, c'était important. Ouais. Alors il faut dire qu'à l'époque, ça c'est très important, c'est que tout le clergé, notamment les évêques en particulier, gérait la situation de Rome.
Oui.
C'était tous des Romains qui étaient élus et choisis dans les grandes familles romaines, et c'est eux qui s'occupaient de l'éducation, qui s'occupaient des hôpitaux, c'était l'administration, c'était le clergé, et c'est ce clergé qui a conservé la religion. Ça, il faut le dire, parce que le rôle du clergé a été absolument fantastique.
Ah oui.
Hein? Fantastique. Ça a été des saints un peu partout qui ont été martyrisés, et en particulier par des peuples qu'ils n'aimaient pas, comme les Goths n'aimaient pas les chrétiens. Umoousio, comme on dit, c'est-à-dire les chrétiens qui croyaient en la Trinité et qui croyaient disons deux personnalités du Christ, comme ils les aimaient pas, ils condamnaient à mort les chrétiens, ceux qui chez eux se convertissaient.
Ah oui.
Sainte Critri était la fille d'un seigneur visigoth, hein, et c'est son père qui l'a fait massacrer.
Oh là là.
Hein. Ricared, le frère de Ricared, qui a un nom absolument infernal, qui plus tard s'est converti en Espagne, qui était un roi goth. Son père avait massacré son frère aîné, qui devait devenir roi à la place de Ricared, avant Ricared. Pourquoi? Parce qu'il s'était converti. L'a torturé pour qu'il dénonce sa religion.
Ah oui.
Il est mort sous la torture.
On voit que la religion était extrêmement importante à cette époque-là.
Elle était importante, oui.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Miklós de Kiss de Nemesker et nous avons une conversation sur les Alains. Alors, j'aimerais bien qu'on reprenne ces Alains puisque vous habitez justement à côté de Courtalain. Alors, partons de Courtalain.
Alors, les Alains étaient restés, une tribu d'Alains était restée en Germanie et au tout début de l'installation des Visigoths. En Aquitaine, les Visigoths ont voulu s'étaler sur Bazas, parce que les Visigoths, les Romains les avaient confinés sur la côte, notamment vers Bordeaux, mais comme ils voulaient s'étaler et ils voulaient prendre Bazas, ils se sont dit on va faire venir des Alains, parce que ce sont des cavaliers terribles.
Oui. Et c'est eux qui vont laisser des noms de villes.
Alors, oui, les Alains sont arrivés, et en cours de route, un Bordelais romain qui s'appelait Pella, Pellin des Pella exactement. Mmh. Et Pellin des Pella leur a fait changer d'avis, leur a dit pas du tout, il faut au contraire défendre Bazas et vous arranger pour que les Romains qui vont avoir besoin de vous, vous installent dans le pays.
C'est comme ça qu'ils sont installés.
C'est comme ça que les Romains les ont installés chez nous au nord de la Loire. Ils en ont installé quelques-uns dans la vallée du Rhône, c'est pour ça qu'on voit aussi des noms avec le mot Alain dans la vallée du Rhône, et une autre partie, la grande partie avec le roi Goar, a été installée au nord de la Loire dans un but, c'était de maîtriser les Bretons.
Mais en Normandie aussi, je crois qu'on a retrouvé même un mobilier funéraire.
Exact, oui.
Oui, c'est ça.
Mais ces Bretons étaient en révolution permanente, comme d'ailleurs presque tout le monde en Gaule, à cause des impôts. Pareil. Pas du tout qu'ils ne voulaient pas être romains, et simplement ils payaient trop d'impôts.
Ça, c'est quand même, je crois, de tout temps.
Ça a été tout le temps. Alors, donc, ils étaient chargés de... Et ils ont été très durs avec les Romains. Une petite anecdote, c'est qu'ils ont été arrêtés une première fois par l'évêque d'Auxerre, Germain d'Auxerre. Mmh. Et le roi des Alains, qui s'appelait Goar, a été sidéré du courage de ce vieil évêque qui a attrapé la bride de son cheval, alors que c'était des cavaliers terribles. Je voudrais simplement les décrire parce que les Alains étaient très beaux. J'ai un texte là d'Amien Marcellin, qui est cet écrivain dont je parlais la dernière fois, romain, historien romain. Et quand il parle des Alains, il dit « Les Alains sont presque tous grands et beaux, avec des cheveux tirant sur le blond. Ils sont effrayants par la férocité même modérée de leur regard, rapides dans le maniement des armes, et ils sont en tout comparables aux Huns, quoique plus civilisés pour ce qui est de la nourriture et de l'habillement. Ils vont pillant, chassant, etc. » C'est-à-dire que les Latins trouvaient les Alains très beaux.
Oui.
Mais je voudrais compléter, c'est que les Alains, ils allaient jusqu'à la Chine, et les Chinois, ils les trouvaient plutôt laids. Ah, les Chinois disaient ils ont les cheveux couleur, les poils couleur du singe Mi dont ils descendent.
Ah oui, donc ils ne les aimaient mais pas du tout.
Ah oui.
Alors, en fait, ils vont adopter la langue du pays, les Alains.
Alors, les Alains vont s'installer très mal. Ils vont s'installer très mal. Bien sûr, ils ont ils sont envoyés par les Romains, donc théoriquement, ils auraient dû être accueillis.
Mais oui.
Mais accueillis dans un pays qui n'avait pas besoin d'être défendu, c'est pas commode. Donc ils vont se battre et chasser une grande partie de la population, tout au moins les seigneurs de l'époque, qui étaient assez courageux pour essayer de conserver leur patrimoine. Et ils vont s'installer à la place, au nord donc de la Loire, chez nous, entre Loire et Seine, dit-on. On va les retrouver... On va les retrouver à la bataille des Champs Cataloniques. Alors, la bataille des Champs Cataloniques, c'est 451. C'est déjà beaucoup plus tard.
Oui. Hein.
Ils arrivent en 415, à peu près 416. 416, la bataille de Bazas. Et on les retrouve aux Champs Cataloniques. Quand Attila arrive devant Orléans, le roi Sangiban arrête Attila. Alors, ce n'est pas ce que disent tous les historiens, notamment Jordanès, qui détestait les Alains, alors que sa mère était Alain. Ça qui est curieux.
Mais c'est bizarre quand même.
Oui, oui, il détestait les Alains, et c'est lui qui avait été chargé d'écrire l'histoire d'Ego. Alors, Jordanès dit ils étaient prêts à se rendre immédiatement au Hun. Mais quand ils ont su qu'Aïssus arrivait, ils ne l'ont pas fait. En fait, il s'est arrangé avec l'évêque d'Orléans, Saint-Aignan, qui lui a négocié. Et c'était le rôle des évêques, c'était extraordinaire. Hein. C'est eux qui géraient l'administration. C'est lui qui a été chercher Aïssus, Saint-Aignan.
En fait, les évêques avaient un rôle très important.
Très important à l'époque, oui. Et ils ont sauvé la Gaule à l'époque, ils ont sauvé. Et ils ont sauvé aussi le christianisme, parce que c'était prêt à basculer côté arianisme.
Hein. Eh oui.
Ça commençait à se détruire partout. Il faut savoir que Constantin était arianiste aussi, était arien, il a été baptisé arianiste.
Ah, oui.
Avant de mourir, oui. On se faisait baptiser généralement très tard parce que ça effaçait tous les péchés.
Ce n'était pas du tout le baptême
de l'enfant.
Enfant.
Pas toujours. C'est vite arrivé le baptême de l'enfant, je pense.
Quelle année c'est arrivé?
Oh, je pense, moi, que c'est arrivé après le concile de Constance. Alors, bref, les Alains s'installent et... Les Romains, quand ils arrivent, le général Aïssus, quand il arrive devant les Champs Cataloniques, il avait quand même trois armées. Il y avait les Francs qui tenaient l'aile gauche avec Mérovée. Il y avait les Visigoths qui tenaient l'aile droite avec Alaric. Alaric qui va mourir, qui va rester sur le terrain. Et il y avait devant les Alains, qui étaient des bons soldats, qui étaient en face des Huns, et les Romains par derrière, les Gallo-Romains par derrière. Ce n'étaient pas des très bons soldats, les Gallo-Romains.
En fait, les Alains, c'était les mieux à cette époque.
C'était les plus forts.
Les plus forts, oui.
Et les Alains vont prendre le maximum, c'est-à-dire que après les Champs Cataloniques, l'histoire des Alains s'arrête ou presque, c'est-à-dire que ceux qui restent s'intègrent totalement dans la population franque.
Oui.
Hein. D'ailleurs, le mot court Alain vient de Curtis Alani, c'est-à-dire un mot franc de l'époque germanique. À Alainville, c'est Ville Alain, c'était sans doute plus ancien, c'était plus romain. Ils vont s'intégrer. On en reparle, certains historiens en reparlent à la bataille de Vouillé. La bataille de Vouillé, c'est plus de 100 ans après. C'est à peu près, oui. C'est quand Clovis, donc le petit-fils de Mérovée,
oui,
va attaquer les Visigoths à la bataille de Vouillé. Bon, c'est, il y a un grand point d'interrogation, on ne sait toujours pas où est Vouillé. Il se trouve que la date qui est donnée, déjà Clovis se trouvait à Bordeaux 2 ans auparavant, mais ça serait assez possible parce que les Alains avaient une cavalerie très, très lourde et très forte, alors que les Francs étaient des fantassins. Et les Francs s'étaient battus déjà 2 fois contre les Visigoths sans pouvoir les maîtriser. Alors il se peut très très bien qu'il y ait eu des Alains qui ont donné un coup de main à la bataille de Vouillé.
Ah oui, ils n'étaient pas à ça près en quelque sorte.
Pas à ça près.
Alors justement, peut-être faudrait-il conclure sur les Alains. Et que sont-ils devenus? Est-ce qu'il y a eu des trésors de trouver?
Alors, oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peuple qui n'a pas laissé, qui était un peuple nomade, donc ils n'ont pas construit, ils n'ont pas laissé de monuments. Par contre, ils ont laissé des tombes.
C'est ça, en Normandie.
En Normandie, ils ont laissé une tombe en Normandie, donc qui prouve leur passage chez nous. Ils ont laissé des tombes qu'on découvre depuis une cinquantaine d'années, qu'on appelle des courganes, qu'on retrouve dans le pays du Caucase. Et les grands spécialistes des Alains, ce sont les Russes, parce que c'est leur pays, et aussi parce qu'il reste des Alains dans ces pays-là, ce sont les Ossètes. Les Ossètes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est ces peuples, ces deux petits pays, tout petits, qui sont, enfin, dont l'un s'est révolté contre la Géorgie. Il y a l'Ossétie du Nord qui appartient à la Fédération russe et l'Ossétie du Sud qui appartenait à la Géorgie. Et l'Ossétie du Sud ne cherche son indépendance, ils s'entendent pas avec les Géorgiens, mais ce sont des gens féroces qui, malgré leur petit nombre, ils sont 400 000, pas plus, habitants, tiennent le coup. Ce sont les Ossètes qui descendent des Alains. Alors chez nous, en Normandie, on a trouvé une tombe.
Un trésor des rangs qui est très important.
Et on cherche à savoir, c'est très difficile, donc je dis, ils n'ont pas laissé grand-chose. J'ai tendance à dire, par contre, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses, mais je pense qu'il est resté dans la population de ce pays le courage des Alains. Et je raconte ça parce qu'il faut se rappeler qu'à la guerre de 100 ans, les Anglais se sont arrêtés à Roux et n'ont pas été plus loin.
À Roux, pour nos auditeurs, c'est justement à côté de Courtalin.
C'est à côté de Courtalin. Ils n'ont pas été plus loin, ils ont été obligés de faire un grand détour pour atteindre Orléans parce qu'ils n'ont jamais pris Châteaudun. Châteaudun s'est battu contre les Anglais.
Le château est quand même...
On retrouve ce courage...
Des murailles, quand même.
Oui, on retrouve ce courage à la guerre de 70. Hein, oui. Il faut se rappeler qu'à la guerre de 70, c'est, je crois, la seule ville de France qui n'a pas voulu se rendre aux Prussiens.
Oui.
Hein, et que leur courage a été reconnu, disons, jusqu'aux États-Unis, à l'époque où, jour par jour, ils avaient des nouvelles de cette bataille de Châteaudun.
Oui.
Hein, les Irlandais avaient envoyé une aide pour soigner les blessés.
Donc Châteaudun n'a pas été pris. Eh bien, écoutez, un grand merci, Miklos de Kiche, parce que vraiment, je crois que nos auditeurs auront mieux compris ce que représentent les Alains. Un grand merci à vous. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, Miklos de Kiche.
Au revoir, Madame Brun.